FM.
Savourez nos différences.
Eh bien, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs du 101.5 sur le radio-g.fr et sur le DAB+ maintenant. Voilà, vraiment, Radio G est partout, sur toutes les ondes et toutes les fréquences. Et en plus, aux commandes, mon ami Jean, éternel et fidèle au service de la rubrique À l'assaut. À l'assaut qui va aborder un thème un peu particulier, même si ça devient malheureusement de plus en plus courant, récurrent, j'oserais dire. Un mot qui dira tout à lui tout seul, illettrisme. Illettrisme, effectivement, c'est quelque chose que l'on constate de plus en plus autour de nous, malheureusement, donc probablement symbole d'une problématique d'éducation, peut-être laquelle je n'ai pas la réponse. Et pour apporter vraiment une touche de positivité et d'optimisme, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un que je connais très bien et vraiment un acteur contre cet illettrisme.
Bonjour. Bonjour Radio G. Je suis ravi effectivement de pouvoir témoigner aujourd'hui des actions qu'on mène sur le territoire angevin autour de la lutte contre l'illettrisme.
Alors pour te présenter, Nicolas Viaud, et qui travaille pour quelle association ?
Donc je travaille pour une association angevine qui s'appelle l'IFRAES. Donc le sigle est un petit peu pompeux, mais je vais quand même le redire, Institut de formation de recherche des acteurs de l'économie sociale et solidaire, on va mettre ça de côté. L'important aujourd'hui, c'est que depuis 2019, certains partenaires, dont la ville d'Angers, nous a confié une mission qui est de coordonner un plan d'action de lutte contre l'illettrisme sur la ville et plus largement sur l'agglomération angevine.
Alors, comment est née cette association, et quelles en sont un petit peu les raisons d'être ?
Donc, l'association a une trentaine d'années sur la ville d'Angers. On était, on va dire, initialement plutôt sur l'accompagnement des associations, tout ce qui est autour de la vie bénévole, la professionnalisation des acteurs. Et puis, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait des difficultés au niveau de ce qu'on appelle la maîtrise des savoirs de base, les compétences de base, ce qui est le lire, écrire, compter. Et donc on a commencé à mettre en place des actions sur la ville à destination de ces publics, de ces adultes qui éprouvaient des grandes difficultés dans leur vie quotidienne.
Alors il semble important, et effectivement on en parlait tout à l'heure en amont, de redéfinir un peu le public ciblé, parce qu'il ne s'agit en aucun cas d'une association qui est là pour apprendre le français à des migrants, mais bien qui s'adresse à un public francophone, voilà, typiquement, et avec des particularités qu'on ne soupçonne pas nécessairement.
Oui, tout à fait, tu as raison, c'est une excellente question, parce qu'il y a parfois une confusion dans les esprits. Et donc nous, on va parler d'un phénomène qui est typiquement français, parce que le terme illettrisme s'applique spécifiquement à notre pays, entre guillemets. Il s'agit de personnes francophones, dont la langue maternelle est le français, qui ont été scolarisées, mais qui, pour différentes raisons, et elles sont nombreuses, ont à un moment donné décroché ou oublié effectivement la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. Donc ces difficultés sont telles qu'aujourd'hui elles ne peuvent pas assumer seules les actes les plus simples de la vie quotidienne.
Alors le plus délicat pour ces personnes effectivement avec cette problématique, c'est de l'avouer, de rechercher de l'aide en dehors généralement de son milieu familial pour des raisons de pudeur que chacun d'entre nous connaisse. Et effectivement, vous avez cette particularité, vous, de pouvoir aider ces personnes de façon à ce qu'elles vous sollicitent et vous expliquent que, voilà, j'ai besoin de votre aide. Comment on fait ?
Là, c'est effectivement, c'est toute la problématique. Ce qui va caractériser effectivement la situation d'illettrisme le plus souvent, c'est un rapport aux apprentissages qui est très difficile, lié à un passé scolaire compliqué, lié à des moqueries, lié à de la honte, qui va perdurer avec le temps. Et ces personnes qui ont souffert un petit peu de ces difficultés vont traîner ça avec eux lourdement et vont mettre en place des stratégies d'évitement, des stratégies de contournement pour ne pas avoir à être mis dans une situation de lecture, d'écriture ou de calcul. Donc d'une certaine manière, ça devient quelque chose de très tabou, ça devient caché.
Bien sûr.
On trouve des solutions autour de soi, des béquilles, des personnes tierces, un voisin, un mari, un enfant qui va faire à notre place et on va essayer de passer sous les radars. Donc le premier enjeu pour nous, ça va être d'aller repérer ces publics et puis ensuite d'aborder la problématique et de trouver des solutions pour qu'elles trouvent du sens à un retour vers l'apprentissage de la lecture, l'écriture et du calcul. Parce que si elles n'en ont pas envie, si elles n'en ont pas besoin, il n'y a pas de raison, entre guillemets, qu'on y aille. Et nous, on n'ira pas forcer quelqu'un à apprendre à lire, écrire ou compter.
Alors, il est quand même fondamental d'expliquer à ces personnes que, effectivement, il y a toujours des béquilles, comme tu le dis si bien, mais un jour, ces béquilles peuvent tomber, peuvent disparaître, et là, on se retrouve seul au monde, et mieux vaut agir en amont que par correctif, c'est beaucoup plus agréable.
Et oui, voilà. Complètement. Tu as raison. La situation d'illettrisme, très souvent, malheureusement, va apparaître dans des contextes d'urgence. On a quand même plus de 50% des personnes en situation d'illettrisme qui aujourd'hui sont dans l'emploi. C'est surprenant, mais les dernières statistiques nous donnent cet indicateur. Et donc, ces personnes-là vont avoir beaucoup de difficultés à changer de poste, vont avoir du mal à envisager une évolution professionnelle ou une reconversion. Mais quand l'accident arrive dans le cadre du travail, quand il faut penser à une reconversion, là, tout à coup, la situation d'illettrisme explose parce qu'on ne peut plus fuir, on est face à une difficulté et la prendre dans l'urgence, c'est pas le plus simple.
Donc, c'est une double peine au final, quoi.
Exactement.
Donc, alors justement, pour éviter justement, il y a cette structure donc en juin. Alors, pour démontrer un petit peu la pudeur et la timidité effectivement de ces cas de figure, c'est que vous avez combien d'adhérents ? Combien de personnes
On accompagne. On accompagne entre, je dirais, 60 et 80 personnes par an. Par différents biais. Hein. Ça peut être par le biais effectivement. D'informations que certains proches viennent chercher, ça peut être à travers ce qu'on appelle des diagnostics, c'est-à-dire à un moment donné, effectivement, quand la personne est prête à franchir les pas de l'association, on essaye de voir un petit peu où elle en est, et là on a mis en place des méthodes qui s'éloignent un petit peu de ce qu'on pourrait vivre à l'école. On fait pas des tests, on fait pas des évaluations, mais on a développé des outils pour permettre de voir où en est la personne, parce que l'idée va être toujours de partir de ce qu'elle sait et pas de ce qu'elle ne sait pas. Voilà. Et de travailler à partir de contenus qui l'intéressent et pas de contenus qui lui sont imposés. On a des personnes qu'on accompagne aussi sur des actions de formation, soit en individuel, parce que on a quand même une grande partie des personnes en situation d'illettrisme qui ne veulent pas, dans les premiers pas, être dans un groupe.
Ce qui se comprend par pudeur.
Exactement, oui. Parce que il y a à la fois la peur d'être jugé, la peur d'être comparé, et puis la peur aussi d'être dépassé. C'est-à-dire qu'on revit ce qui s'est vécu à l'école, quand le professeur donnait une explication qu'on ne comprenait pas, mais que le professeur continuait à expliquer parce que face à 30 élèves, on peut pas s'arrêter spécifiquement toujours sur la problématique d'un ou de quelques élèves. Donc, voilà. Des ateliers en individuel, des ateliers en petit collectif, en 2-3 personnes. Et puis après, on essaye de se rapprocher de ce qui pourrait être attendu dans une formation, on va dire, classique, sur des petits groupes de 8-10 personnes, sur des formats qui ne soient pas trop longs dans la semaine, pour que progressivement, la personne puisse se rapprocher de ce qu'on pourra attendre dans une formation classique. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'elle puisse lorsqu'elle est en dehors de l'emploi, se former et puis obtenir une qualification.
Alors, nous sommes dans une société où la vie est une compétition permanente. Donc, effectivement, le fait de se retrouver déstabilisé, déstructuré comme ça, pose d'énormes problèmes. Alors, le nombre de personnes suivies aujourd'hui démontre qu'il y a quand même une certaine timidité, malgré tout, à vouloir faire cette démarche. qui me paraît essentiel. Donc on donnera les contacts à la fin de l'émission, justement, pour expliquer. Renseignez-vous, allez-y, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, ça ne pourra que vous aider. Quoi. Alors, nous parlions également en amont tout à l'heure d'un gros projet à venir pour IFRAES. Alors moi, je suis curieux de savoir de quoi s'agit-il.
Depuis effectivement quelques années, on développe nos actions et donc là, en lien avec une structure qui s'appelle la NLCI, qui est l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, qui est un organisme national, et puis un réseau de professionnels. Le projet est d'ouvrir au printemps sur Angers un centre ressources illettrisme.
Alors Fichtre, de quoi s'agit-il ?
Il en existe plusieurs en France. Il n'en existe plus sur le département depuis de très nombreuses années. Et donc l'objectif d'un centre ressources illettrisme, c'est d'avoir un lieu, un espace qui soit dédié à la fois aux apprenants, mais aussi à toute personne professionnelle, bénévole, qui souhaiterait s'informer, être sensibilisé, être accompagné sur cette problématique de l'illettrisme. Donc, ça se traduit par des permanences d'accueil, des permanences téléphoniques, des ressources pédagogiques, des ouvrages, des CD, des formations aussi proposées aux professionnels et aux bénévoles. Et puis, c'est aussi l'idée d'animer à l'échelle d'Angers de l'agglomération un réseau de bénévoles qui ait été formé à des méthodes et des pédagogies adaptées à ces publics qui sont un petit peu fâchés avec les apprentissages.
Alors justement, on parlerons de bénévoles. Quel type de bénévolat recherchez-vous ? Parce que Dieu sait si c'est quelque chose de particulièrement énorme à recruter, parce que le bénévolat disparaît à vue d'œil. Comment vous gérez-vous cette structure, effectivement, à partir de bénévoles ?
Là, on développe depuis un an, on essaie de redévelopper un réseau de bénévoles. Aujourd'hui, on a entre 12 et 15 bénévoles. Donc, on est très, très heureux et satisfait. Mais on les recherche traditionnellement, par voie d'annonce. Hein, France Bénévolat, la ville d'Angers a aussi ses propres outils pour faire ses recherches. Et au niveau des profils, j'ai envie de dire, il faut sortir de l'idée qu'une personne qui serait en capacité d'avoir les qualités d'accompagner des personnes en situation d'illettrisme, c'est pas forcément un ancien enseignant. Ça peut l'être, mais on a, je dirais, 90%, 95% des personnes qui ne sont pas des anciens enseignants. Parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes que l'on va adapter, et qu'on va plutôt être là pour réconcilier la personne avec l'écrit, la lecture et le calcul, la remettre en contact avec cet univers-là, plus que d'être sur un enseignement avec des choses très carrées autour de l'orthographe, de la grammaire. C'est pas là où se situe l'action des bénévoles. Donc j'ai envie de dire, il faut avoir envie, déjà, d'aider, avoir de l'écoute, être souple aussi pour s'adapter à ces publics, être curieux, inventif, parce qu'il faut trouver effectivement le bon chemin.
Alors, ça requiert quelles compétences pour quelques bénévoles qui seraient intéressés effectivement pour venir renforcer cette structure ?
Bah, c'est ce que j'indiquais hein, là à l'instant. C'est les personnes me demandent, je dis déjà, c'est la première chose, c'est que vous fassiez plaisir, que vous ayez envie. Nous, on peut vous accompagner, vous former. Il faut avoir peut-être aussi une certaine appétence pour la lecture, l'écriture et le calcul, mais pas comme quelque chose de technique, plutôt comme quelque chose qui peut permettre au public qu'on accompagne de retrouver leur liberté, de retrouver de l'autonomie. Et donc là, il faut être curieux, il faut être inventif, il faut avoir des qualités sociales, des qualités d'écoute, parce que derrière la situation d'illettrisme se cache très souvent d'autres difficultés. C'est-à-dire qu'on ne naît pas en situation d'illettrisme. C'est les accidents de la vie, c'est les chemins personnels qui font qu'à un moment donné, on a des personnes qui vont vivre des ruptures. Et souvent, derrière, on peut avoir des personnes qui sont en souffrance avec d'autres difficultés derrière.
Alors, ce centre de ressources va naître à partir de quand? Dans quelle situation géographique?
Donc là, les locaux sont situés 3 rue du Paty, à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Donc c'est à la frontière d'Angers, dans la zone industrielle, pas très loin de le Roi Merlin. Je donne souvent ça comme indicateur. Donc l'ouverture, on la souhaite, bon, on est déjà ouvert, on va dire officiellement, fin du printemps, donc ça sera courant avril.
D'accord.
On essaiera de marquer un petit peu le coup, mais bon, on fait aussi avec les moyens hein, du bord, donc on est en train de structurer, d'aménager l'espace, d'essayer de trouver des ressources pédagogiques, donc voilà, aussi, on est en quête, aussi d'ouvrages, on achète avec l'argent qu'on peut trouver.
Alors justement, comment est financée toute cette association, la structure actuelle là, comment ça oscille tout ça?
On va dire que c'est surtout des financements publics. Hein. On est quand même sur une action d'intérêt général. Donc la ville d'Angers nous soutient en premier lieu. Donc ça, c'est quand même à souligner parce que ça n'est pas souvent la prérogative de la ville hein, de soutenir ce type d'action. La CAF de Maine-et-Loire. Parce qu'autour de la parentalité, il y a aussi des enjeux autour de l'écrit, la lecture, le calcul, notamment sur l'accompagnement des enfants dans la scolarité. Le département aussi hein, nous aide un peu. Puis ensuite, on a des partenaires, des actions spécifiques avec Pôle emploi. Donc on essaye d'aller chercher un petit peu de l'argent à droite à gauche pour avoir suffisamment pour faire vivre la structure.
D'accord, ce qui n'est pas... un moindre problème.
Non, mais on a déjà le mérite d'exister. Voilà, on va voir le verre à moitié plein. Et c'est déjà ça.
Alors, quel est le plus beau souvenir de toute cette expérience depuis le démarrage?
Le plus beau souvenir, c'est souvent en lien avec des apprenants. Moi, je trouve que le plus grand plaisir, c'est quand on a face à nous une personne qui a suffisamment de courage pour franchir la porte de l'association, venir nous rencontrer, alors que parfois elle attend depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et qui, après la rencontre, après les premiers échanges, nous dit « ça y est, je tape du poing sur la table » et dit « ok, j'y vais ».
Oui, ce qui est d'autant plus motivant, c'est de savoir que ces personnes parlent absolument couramment, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune problématique intellect, quelle qu'elle soit.
Ah non.
C'est une véritable volonté de dire, voilà, je veux évoluer, je veux grandir, et puis être autonome. Voilà.
C'est vraiment cette question, moi je trouve, de la liberté, de l'autonomie, de l'émancipation. Mmh. Hein. Là, la personne à laquelle je pense est une personne qui... aux dépens de son mari qui effectivement remplit tous les documents, remplit les chèques, et cette personne ne s'empêche d'énormément de choses. Voilà,
bien sûr.
Elle ne peut pas acheter elle-même, elle ne peut pas gérer le budget, elle évite les parties de jeux de société à la maison, les jeux de cartes, elle évite un certain nombre de situations, et on se rend compte comment la situation d'illettrice peut isoler les personnes.
Bien sûr, il y a quand même un sentiment de frustration qui est quand même conséquent.
Oui.
Et pourtant, quel bonheur de savoir lire, écrire.
Complètement, mais quel combat pour entreprendre de réapprendre.
Alors, faisons un appel généralisé à tous les auditeurs. Nicolas.
Je dirais, la lutte contre l'illettrisme, c'est l'affaire de tous. Moi, je pense que c'est une affaire citoyenne et que à partir du moment où on est sensibilisé à cette question, on peut être attentif à notre entourage et oser en parler. Beaucoup de personnes en situation d'illettrisme nous disent « si on avait osé m'en parler, j'aurais peut-être franchi le pas plus vite ». Donc, il ne faut pas que le tabou que vivent les personnes soit le tabou de l'entourage aussi.
Et quand on voit la bienveillance avec laquelle tu en parles, surtout, allez-y, vraiment, c'est super. Voilà. Juste un contact pour finir, le temps passe malheureusement.
Donc l'association IFRAES, hein, je donnais l'adresse tout à l'heure, on est situé 3 rue du Paty à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Hein. Les portes de l'association sont ouvertes à tous et à toutes en semaine. On a un numéro vert aussi, il faut le signaler, Info Illettrisme, hein, qui est le 0800 11 10 35. Pour le département, c'est moi qui réponds, donc voilà, je vous donnerai des informations si vous avez des questions. Et puis surtout, n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Plus on sera nombreux, plus
rappel du numéro de téléphone vert gratuit
0800 11 10 35.
Eh bien, écoutez, sur ces très très belles paroles très optimistes, je vais vous souhaiter, en compagnie de mon ami Jean, un très très bel appétit à tous. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle rubrique à l'assaut. Et vraiment, soyez le bienvenu parmi nous. Nous sommes très, très heureux de communiquer avec vous.
Solidarité, environnement, humanité, partage, culture, art, découverte, science, musique, territoire, entraide, bénévolat, cohésion, santé, sport, rencontre, à l'assaut.